Les sentiers du monde. Une émission proposée par Nadia et Kadri Aga.
Amis auditeurs, bonsoir. Et Kadri Aga, bonsoir.
Bonsoir Nadia.
Eh bien, nous n'allons pas perdre de temps ce soir en entrée en matière. Alors, je vous poserai tout simplement cette question. Où allons-nous ?
Eh bien, nous allons nous rendre dans les Himalayas que nous avions visités lors de la précédente émission sur l'Inde et plus précisément dans le Bhoutan, qui est un petit pays situé dans la partie orientale de l'Himalaya. Il est limité par la Chine au nord et par l'Inde au sud et aussi à l'est. À l'ouest, il y a l'état du Sikkim. Ce petit pays, cherchant à affirmer sa neutralité et son indépendance face aux deux géants asiatiques que sont la Chine et l'Inde, a été admis dans l'Organisation des Nations Unies en 1971, mars 71, je crois. Et il a même posé sa candidature dans l'Organisation des Non-Alignés. Il a longtemps craint d'être annexé, comme le Tibet le fut, par la Chine en 1958, et de subir aussi une trop grande influence de l'Inde.
Parce qu'enserré entre ces deux grands, c'était possible. Comment a-t-il pu conserver son indépendance ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a aussi une frontière géographique. Une frontière géographique qui est très importante, à savoir la chaîne des Himalayas.
Oui, oui.
Alors, il a pu conserver, si vous voulez, cette position géographique. Il a pu n'intéresser personne à un moment donné.
Oui, oui.
Lorsqu'on a pensé à stratégie, il est en fait certain que, de part et d'autre, on a essayé de s'acquérir ce territoire, ce petit territoire, ainsi que d'autres, il y en a cinq. Donc le Tibet, qui est devenu province chinoise, le Sikkim, dont je vous ai parlé, le Sikkim et le Ladakh, qui sont devenus des provinces indiennes, et puis le Népal et le Bhoutan, qui sont des monarchies indépendantes, donc autonomes. Alors, si vous voulez, l'intérêt du Bhoutan, du fait de sa position géographique, a été de garder son indépendance pour se préserver de toute ingérence extérieure. Lorsqu'en 1958, le Tibet devint province chinoise, le Bhoutan, ou Bhoutan, on prononcera, oui, le Bhoutan prit peur et ferma sa frontière du nord. Et tout de suite après, il a sollicité, bien sûr, l'assistance technique de l'Inde pour à la fois, si vous voulez, délimiter un peu son territoire et en même temps, essayer d'obtenir une protection, un semblant de protection.
Et l'Inde, alors, est devenue un débouché à ce moment-là?
Oui, parce que l'Inde lui permettait de sortir de son isolement. Et puis, le pays ne pouvait pas vivre en autarcie totale, et il devait aussi absolument écouler sa production agricole qu'il vendait au Tibet.
Auparavant,
donc qu'il vendait au Tibet. À partir du moment où le Tibet était devenu province chinoise, il est en fait certain que les Chinois n'auraient jamais permis à ce que ce pays leur vende des produits agricoles, d'autant que la Chine est riche sur ce plan-là, sur le plan agricole. Alors, il faut préciser aussi que ce petit pays, donc comme je vous l'ai dit, ainsi que le Népal, sont indépendants. Parmi les cinq États tampons, les États himalayens tampons, il n'y a plus que ce pays, le Bhoutan et le Népal, qui ont conservé leur indépendance. Je vous ai dit que le Ladakh avait été rattaché avec le Sikkim à l'Inde, à l'Union indienne, dès l'indépendance en 1947.
Mais ils n'ont pas eu à lutter pour conserver leur indépendance.
Non, c'était... À un moment donné, ils ont été des protectorats britanniques aussi. Ils ont été des protectorats britanniques et puis il y a eu des négociations qui se sont engagées déjà, par exemple, quand on parle du Bhoutan, déjà le siècle dernier, en 1800, je pense, 57, 58, 60, je ne peux pas vous donner précisément, mais il y avait déjà des traités donc, où l'on observait la neutralité de l'un et de l'autre. Et ces traités ont été automatiquement, en ce qui concerne le Bhoutan, reconduits avec l'Union indienne au moment de la déclaration de l'indépendance. Le Bhoutan est une vieille théocratie, c'est-à-dire un gouvernement religieux. Un gouvernement religieux, donc avec une ascendance divine, qui a été transformé en royauté au début du siècle par le grand-père de l'actuel roi. Alors, le Bhoutan est une région montagneuse, donc puisqu'il est dans les Himalayas, hein, il est sur la partie orientale, donc au-dessus de ce qui domine le Bengale, donc l'État de Bengale, parce que il y a l'État du Bengale et il y a la partie du Bengale qui est devenue Bangladesh, qui était à l'époque Pakistan. Mais l'État, ce qui reste État du Bengale, de l'Inde, donc de l'Union indienne ou de la République indienne. Le grand-père a fait une espèce de coup d'État qui a retiré le pouvoir aux religieux et il s'est proclamé roi. Le fait que le Bhoutan est une région montagneuse ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaine. Alors, c'est une région montagneuse qui, entre différentes montagnes, est constituée de vallées très riches, de vallées agricoles riches. Du fait que c'est une région très irriguée et une région avec un sol fertilisé.
Et quel genre de culture on y trouve ?
Beaucoup de blé. Ouais.
Du blé,
oui.
Et du riz, non ?
Du riz, non, pas de riz. Parce qu'il n'y a pas d'étendue d'eau stagnante.
Ah, oui, d'accord.
Mais surtout du blé, des céréales, énormément de céréales. Alors, toute son économie, bien sûr, est basée sur l'agriculture. Et le pays, particulièrement vierge, a pu conserver son originalité parallèlement à l'évolution du monde moderne.
Mais, c'est bien.
Oui. Cependant, dès les années 70, il a entamé un prodigieux tournant de son histoire. Le roi a voulu s'ouvrir vers le modernisme. Il a demandé aux Indiens de venir lui construire une route. Alors, il y avait la première route. Le projet a été engagé en 68. En 70, il y avait déjà une bonne partie qui était déjà fonctionnelle. Et cette route a relié le pays à l'État du Bengale, l'État du Bengale indien. Et cette route allait ouvrir le pays qui était totalement replié sur lui-même,
oui,
au monde, au reste du monde. Des changements, donc, se sont opérés grâce à cette route. Des automobiles, jusque-là inconnues, jusqu'au début, jusqu'aux années 60, des automobiles qui n'ont jamais été vues, hein, ont fait leurs apparitions. Il y a eu, bien sûr, avec les automobiles, il y a eu des transports. Mais comme c'est un pays montagneux et que les communications sont très difficiles, les transports, véhicules, donc automobiles, n'ont pas eu de succès dans la région. Parce que, les porteurs, il fallait prendre les charges à pied pour passer par des chemins escarpés. C'est, si vous voulez, l'état de la région du Bhoutan est un peu la région que nous avons vue au Cachemire, lorsque nous avons parlé d'Amarnath. Alors, c'est très rocailleux. Vous passez par des pentes escarpées, des chemins désolés où il n'y a que du rocher, où l'ascension est très difficile. Puis, subitement, vous arrivez dans une plaine, une belle plaine, comme ça, en plein milieu de la montagne. Et les gens vivent, justement, en habitat dispersé, dans des vallées centrales qui s'étendent du nord au sud. Il demeure généralement entre 2000 et 3000 mètres d'altitude.
Quelle est la plus haute montagne ?
Eh bien, il y a une montagne, la plus haute montagne fait 8000 mètres. Enfin, la montagne...
Au Bhoutan, dans le pays
Oui, dans l'état du Bhoutan. Ah, oui. 8000 mètres environ. Alors, le Sud, pourquoi vivent-ils ils vivent justement au centre du pays, parce que le Sud, et ce sont des pentes qui sont soumises pratiquement à des pluies torrentielles, à une espèce de mousson, et ça a donné une végétation très dense et pratiquement impraticable. C'est un peu la forêt vierge.
Et où tombe la mousson? La température est moins froide, non?
Bien sûr, la pluie, il est un fait certain que lorsque l'eau arrive à tomber, donc elle n'est plus gelée, et effectivement, il fait moins froid. Alors, et le nord, lui, est très élevé et il est plus froid. Vous avez des températures qui atteignent des fois moins 40 degrés centigrades. Ça tourne généralement autour de moins 25 degrés. Alors, ça donne des communications. Les communications sont difficiles et il n'y a pas de route, il n'y a rien. Alors, c'est pour ça que les transports automobiles, lorsqu'ils ont été introduits dans ce pays, n'avaient pas beaucoup d'efficacité. Uniquement donc depuis Timbu, la capitale, vers le sud, notamment vers le Bengale, l'état du Bengale, l'état indien du Bengale.
Et les pics montagneux ont des neiges éternelles.
Oui, oui. Effectivement. Alors Timbu, la capitale, avec la création de cette route, connut un essor extraordinaire. C'était au départ un petit village qui devint une véritable ville en 1962 déjà. Dès 1962, le roi a décidé une urbanisation. Et il a amené des architectes, bien sûr, indiens et quelques architectes européens qui ont tenu compte, justement, de l'architecture traditionnelle, de l'habitat traditionnel. Et alors, cette ville, subitement, ce village qui était en pleine montagne, ce village rocailleux, est devenu une ville, une véritable ville avec des routes, avec des commodités, avec l'électricité qui était pratiquement inexistante, avec le téléphone, puis il y a eu même le téléphone. C'est assez extraordinaire. Le modernisme, subitement, qui rentre dans une région qui était totalement coupée du monde. Du
reste. C'était un énorme changement dans la vie des habitants.
Certain, c'est certain. D'ailleurs, c'est un changement qui a été très mal perçu, très mal opéré, parce que, je vous ai dit, c'était une théocratie. Cette théocratie a été dépossédée de son autorité par un roi. Et puis, son petit-fils introduit le modernisme dans ce pays. Alors, on s'est dit, on commence à pratiquement à nous vendre à l'étranger, à changer nos habitudes, à changer notre façon d'être. Alors, il y a même eu dans cette ville un cinéma à l'époque. C'est extraordinaire. Du temps où j'y suis allé, il y avait un seul cinéma pour tout le pays. Un cinéma, c'était amusant d'ailleurs à voir.
C'était en quelle année?
En 1970. C'était en août 70, parce que le pays est pratiquement impraticable pendant 8 mois de l'année. Il fait tellement froid. Et il y a eu un centre commercial, donc un cinéma. Il y a eu bon nombre de choses qui venaient, d'ailleurs, que les Bhoutanais ne connaissaient pas.
Mais ça leur paraissait bizarre, tout ça.
Et tout a changé subitement, sur la volonté du roi, ce roi fut intronisé en 1952. À cette époque, tout était... Si vous voulez, en 1952, lorsque le roi a été intronisé, tout était resté figé depuis des siècles, rien n'avait changé. Cette vie, la vie du Bhoutan, était la même que celle qu'ont connue les ancêtres des Bhoutanais actuels. Elle n'avait pas du tout changé.
Et c'est ce roi qui a tout changé.
Il a tout changé. Alors la première réforme fut la création déjà d'une assemblée nationale qui s'appelait le Tsongdu, alors qui s'appelle toujours bien sûr le Tsongdu, qui assure ainsi, qui a assuré le passage de la monarchie absolue vers une monarchie constitutionnelle. Alors c'était, si vous voulez, un roi progressiste, libéral, pratiquement. Et donc le roi aussi, après avoir fait, il a fait des études bien sûr avec des répétiteurs indiens et européens, et construit des écoles laïques, parce que l'enseignement était religieux, des écoles laïques où, si vous voulez, le nombre de fillettes était comparable, sinon supérieur, au nombre de garçons.
Et il n'a pas eu de difficulté à se maintenir au pouvoir avec une telle révolution dans la façon de vivre?
Non, parce que les Bhoutanais sont un peuple pacifique, c'est un peu pacifique et, si vous voulez, assez... satisfaits de leur sort, étant donné qu'ils vivent dans une région dite sainte, une région où la religion, si vous voulez, le Bouddha est partout. Et le Bouddha amène à la sagesse, à la contemplation et surtout à la tolérance.
Oui, c'est vrai.
Alors, bon, on voyait, il n'y a pas de soulèvement, il n'y a jamais eu de force, de puissance qui a décidé de changer brutalement les choses. Parce que même le grand-père de l'actuel roi, lorsqu'il a fait son coup d'État, il n'a pas usé de violence. Il s'est imposé avec l'aide de ses gens. Mais il n'y a pas eu de violence exercée, étant donné qu'il y a très peu d'armes d'ailleurs, les gens se baladent sans armes. Alors, il y a encore quelques années, jusqu'en 62-63, il n'y avait dans ce pays que les lamas, donc les religieux, que les lamas et les quelques fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les dignitaires de l'État, qui étaient instruits, qui avaient été à l'école. Il n'y en avait pas avant que le roi ait décidé d'établir des écoles. Bien sûr, toute une série de transformations, un impressionnant chantier de transformation et de modernisme. Et sur ces chantiers, vous aviez des hommes et des femmes qui travaillaient, qui partageaient le même travail.
Ah oui, à ce propos, comment est la vie quotidienne, justement, des femmes et des hommes ?
Eh bien, dans la vie quotidienne, les femmes et les hommes sont sur un pied d'égalité. Oui, les seules restrictions qui concernent la femme sont d'ordre politique et religieux. Il n'y a pas, bien sûr, de femmes au sein du gouvernement, et il y a très peu de nonnes, enfin de prêtresses, de religieuses. Alors bon, il n'y a qu'à ce niveau que l'on perçoit une infériorité, une légère infériorité. Mais sinon, dans la vie courante, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de priorité dans la vie sociale de l'un ou de l'autre sexe. Alors, il y a... Bien sûr, un des grands intérêts du royaume, c'est qu'il est pratiquement le seul, puisqu'on parle de religion, le seul actuellement où la religion bouddhiste tantrique est encore vivace. Elle est même plus que cela, elle est omniprésente, comme je vous l'ai dit. Le Bouddha est partout. Le Bouddha, il n'y a pas... Il est dans tous les esprits. Il est impossible de passer un moment dans ce pays sans penser au Bouddha. Oui. Alors, il n'y a pas une demeure, il n'y a pas une ferme qui n'ait sa chapelle avec un autel, donc pour un autel pour les prières. Ces statuettes en beurre de yak. Le yak, c'est un animal, un mammifère de la région qui vit sur les hauteurs avec de longs poils.
Les statuettes en beurre.
En beurre, oui. Non, elles ne fondent pas parce qu'il fait toujours très froid.
Ah oui, c'est vrai.
Et puis, il y a une technique, on mélange ce beurre à une espèce d'argile, un peu d'argile pour le solidifier.
Mais l'ambiance religieuse bouddhiste, c'est un peu comme l'hindouisme en Inde. On ressent...
On la ressent, effectivement, elle est omniprésente, cette ambiance. Elle est partout, et d'ailleurs, il n'y a pas, si vous voulez, il est naturel que les gens soient religieux. Il n'y a pas une famille de plus de 4 enfants qui n'ait pas donné un fils à la religion, au bouddhisme, à la religion en tant que prêtre, en tant que moine. Alors, si vous voulez, un ou d'ailleurs même plusieurs dans un monastère. C'est considéré comme une bonne action qui attire les grâces divines sur la famille donc qui a donné son fils. D'ailleurs, c'était comme ça en Italie, il y a encore peu de temps. Bon, il était dans les campagnes, il était normal que le fils aille en religion. En Espagne aussi, dans certains pays européens, c'était normal. C'était jusqu'au début du siècle, par exemple en France, un peu partout, il était normal que l'on fasse d'un garçon un prêtre, parce que c'est bien. C'est une position sociale très enviée, parce que le prêtre, il ne faut pas oublier, est l'intercesseur entre les hommes et Dieu. Mmh. Et à partir du moment où il est l'intercesseur entre les hommes et Dieu, autant qu'il commence par les siens, charité bien ordonnée commence par soi.
Donc c'est, alors, je veux dire, dans ces pays que vous venez de citer, il allait au séminaire et devenait prêtre.
Il devenait prêtre, bien sûr. Le séminaire, il y a un séminaire, une formation. Mmh. Alors, le lama, dont le nom signifie supérieur, est un maître aussi, un maître vénérable, et le représentant le plus élevé de la religion. Alors, c'est bien d'avoir un fils lama. Mmh. Alors, on en fait un lama. Outre, si vous voulez, l'initiation qui le fait membre de la communauté bouddhiste, donc dans le séminaire, le lama reçoit une sorte d'ordination qui lui donne un caractère sacerdotal. Il doit faire aussi des études spéciales en théologie, en philosophie, en littérature, en médecine, en astronomie. C'est-à-dire, étant donné que c'était, d'ailleurs c'est très logique, parce que étant donné qu'il est le guide, il est le guide des hommes. Il est à la fois le guide spirituel et le guide temporel. Mmh. Et puisque dans ces pays, il y avait une organisation théocratique, c'est l'organisation politique passée par les prêtres. Alors les prêtres devaient faire face à toutes sortes de situations. Il fallait qu'ils aient réponse à tout. Il fallait qu'ils soient à la fois médecins, il fallait qu'ils soient astronomes, il fallait qu'ils soient ingénieurs d'une certaine manière, il fallait qu'ils puissent donner des directives techniques pour la réalisation de telle ou telle chose. Alors, le lama était, d'une certaine manière, omniscient. C'était une véritable, et c'est toujours, une véritable encyclopédie. Et c'est, justement, dans sa formation, c'est ce qui caractérise principalement le lama. Alors, si vous voulez, c'est parmi les lamas que sont généralement nommés les supérieurs ou les abbés de monastères. Alors, ceux qui n'ont pas été élus, ceux qui n'ont pas été choisis comme abbés, donc supérieurs, eux professent dans les monastères les sciences pour lesquelles ils ont été gradués. Donc, ils sont soit professeurs de médecine ou ils enseignent aux nouveaux initiés et ils surveillent leur éducation, l'éducation des novices, de tous ces novices qui viennent, qui ont été envoyés pour se former et devenir là-bas.
Ce sont tous des hommes de grande culture.
Oui, ce sont des hommes de grande culture. La connaissance ne doit pas faire défaut. Pour que vous puissiez faire la charité aux gens, il faudrait que vous soyez présent. Pour être présent, il faudrait avoir la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est le savoir. Alors, il ne faut pas que vous restiez insensible à l'inquiétude de l'autre. Et cette inquiétude est souvent formulée à travers des questions. C'est pour ça qu'ils ont la sagesse omnisciente, d'une certaine manière, c'est un pléonasme, la sagesse universelle, la connaissance de tout.
Oui, réponse à tout.
Et il faudrait qu'ils aient réponse à tout, sinon, ils n'ont pas raison d'être. L'église bouddhiste tantrique, enfin je vous vois faire un peu, quand je parle d'église, vous savez, il faut prendre le mot église, non pas dans le sens catholique, le sens chrétien, l'église, il faut le prendre à son sens étymologique, le sens grec, ecclésia, qui veut dire assemblée. Assemblée, et là, dans ce cas, assemblée religieuse. Alors, l'église bouddhiste tantrique a une énorme importance dans la vie du pays. Étant donné qu'elle a toujours régi ce pays, elle est toujours omniprésente, elle est toujours là. Elle l'a influencée pendant des siècles et elle a créé une unité culturelle et politique. Toujours omniprésente, elle est toujours là. Elle l'a influencée pendant des siècles et elle a créé une unité culturelle et politique.
Mais qu'est-ce que le bouddhisme tantrique?
Eh bien, le bouddhisme tantrique, C'est un bouddhisme, bien sûr, avec un qualificatif tantrique particulier. Mais d'abord, je vais vous expliquer. Vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé de l'Inde, nous avons parlé d'hindouisme, donc. Et dans l'hindouisme, il y avait la Trimurti, Brahma, Vishnu et Shiva.
Shiva, oui.
Bon,
Shiva.
Bon, les vishnouistes disent que Bon, il y a, vous savez, Vishnu a 10 avatars, donc 10 représentations de lui. Un des avatars, le 9e avatar de Vishnu, c'était le bouddhisme, Bouddha, le Bouddha.
Oui. Bon.
Alors, le bouddhisme tantrique ou le tantrisme vient de tantra, qui en sanskrit signifie la trame, l'usage. Donc, le tantrisme est un ensemble donc de livres, de doctrines dans l'Inde formés donc le tantra, plutôt les tantras, formés donc de recueils très variés, de spéculations, de croyances, de rites, de symboles d'enseignement secret, de pratiques magiques, enfin de toutes sortes de choses plus ou moins ésotériques, et qui ont été élaborés depuis le 7e siècle, mais qui ont été rédigés bien plus tardivement. Dans beaucoup de religions, vous avez ça. Bien sûr, la révélation du Coran, à titre d'exemple, la révélation du Coran a été faite par le prophète, hein, et ce sont, si vous voulez, ses successeurs, tous les califes, qui ont rédigé, qui après avoir apporté des annotations, ont rédigé et ont mis en forme ce Coran. Mais le Coran a été révélé au prophète qui l'a énoncé. Alors là, c'est pareil, c'est ce que disent les tantristes. Alors, les tantras sont des révélations, sont des textes plus ou moins magiques, hein, qui ont ésotériques, qui ont été révélés et qui ont été rédigés, qui ont été élaborés depuis le 7e siècle, mais qui n'ont été rédigés que tardivement, bien plus tardivement, jusqu'au 15e siècle. Il a fallu attendre plusieurs siècles pour qu'ils soient totalement rédigés, tous. Le tantrisme est une forme syncrétique d'un ensemble de doctrines qui sont tirées des tantras, donc c'est tous ces textes, de spéculations tardives à caractère ésotérique sur l'hindouisme d'un côté et le bouddhisme. Mais c'est aussi des cultes populaires. Si vous voulez, c'est l'assimilation des syncrétismes de révélations et de cultes anciens populaires, et notamment de cultes chamaniques. Je vous ai expliqué ce qu'était le chamanisme lorsque nous avons parlé des Esquimaux, je crois, et nous avons parlé des Oustiaques. Alors, c'est ça.
Oui, mais tout ce que vous venez d'énumérer, là, c'est... Enfin, je ne sais pas, c'est un peu oppressant.
Pourquoi oppressant ?
On se sent enfoui, enfin, on se sent très petit devant tout ça.
On est toujours très petit devant le texte de Dieu, devant tout ce qui est divin. Sinon, si on ne se sentait pas petit devant ce qui est divin, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de religion. Alors, mais si vous voulez, il y a bien sûr peut-être cette notion de magie qui apporte à quelque chose, qui apporte du mystère.
Oui.
Mais la magie, revenons à ce que je vous avais énoncé à propos de magie. La magie vient de mage. Mage, c'est le sage, c'est celui qui sait. Et la magie est beaucoup plus la connaissance et non
ce qu'on en fait maintenant.
Ce qu'on en fait, exactement. Alors, mais la magie y a joué un très grand rôle.
Comment, par exemple ?
Oui, on la retrouve dans l'efficacité accordée au mantra, signifiant l'instrument pour apporter la pensée, sont des formules incantatoires, par exemple, des hymnes de rituels, des rituels du sacrifice qui sont employés, qui étaient déjà employés à l'époque védique.
Oui, vous vous
souvenez, on avait parlé
du
védisme,
oui.
Le sacrifice védique très avant. Tous les mantras sont nommés, résumés, si vous voulez, par, au départ, une syllabe, la syllabe « Aum ». Aum, qui s'écrit soit O-M ou bien A-U-M, Aum, donc Aum, qui est...
Alors, c'est quoi, Aum ?
Eh bien, Aum, c'est une syllabe sacrée formée de la contraction de phonème Aum, donc A-U-M, donc Aum, qui est le mantra suprême, qui est le premier mantra, qui est énoncé, qui est en soi un principe divin, qui est l'objet de la méditation reconnue de toutes les religions issues du védisme. Alors, c'est le symbole, par exemple, trinitaire du brahmanisme. Ce mot, d'ailleurs, représente, le mot Aum représente l'absolu, donc le Brahma de l'hindouisme. L'absolu, par exemple, dans l'islam, la notion d'Allah. Alors, et le mot Aum commence toutes sortes de rituels, commence toutes sortes de cérémonies religieuses. Alors, c'est comme si un musulman, avant de faire quoi que ce soit, dit « Bismillah ». Alors, le bouddhiste tantrique, le védique, l'ancien védique, l'hindouiste commence par « Aum ».« Aum ». Alors, c'est la chose essentielle, fondamentale. À partir de ce moment-là, si vous voulez, il s'ouvre, il se prédispose au contact divin, au contact cosmique. Je vous ai dit, le Brahma, qui est le Brahma lui-même, c'est comme l'invocation du Brahma, selon bien sûr les Upanishads. Les Upanishads, ce sont des textes sacrés. Il est le passé, il est tantôt à la fois, si vous voulez, il est tout. Il est tantôt le passé, tantôt le présent, tantôt l'avenir. Il est tantôt les trois états de la conscience, à savoir le passé, la veille, donc le rêve, le sommeil, il est la synthèse même de l'univers. Alors, cette invocation joue un rôle mystique considérable. Je vous ai dit, elle est au commencement de tout. Elle est au commencement de tout. Elle est la formule rituelle bouddhique, d'abord, essentiellement. Et cette formule, est, qui peut être aussi déroulée dans les moulins à prière bouddhiques, tantriques, on dit Aum, toujours, par exemple, Aum Mani Padme Hum, qui veut dire, si vous voulez, c'est ce qui donne l'illumination, qui veut dire, c'est-à-dire la victoire sur les passions, sur sa propre, sur son propre soi, sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre. Et on demande justement l'illumination, ce qui va vous permettre de sortir de cette enveloppe. Et c'est cette formule rituel bouddhique qui est la plus importante. Alors, dans le soufisme d'ailleurs, dans le soufisme de l'islam, on retrouve la syllabe Aum qui est dotée du même pouvoir, mais seulement dans le soufisme, ça n'a pas le même sens. Là, c'est Aum, c'est la mère, c'est la matrice du monde, c'est l'origine, c'est vers cette origine qu'on retourne, d'ailleurs la symbolique est identique dans le soufisme, c'est cette origine de l'endroit où vous êtes venu, de l'endroit où vous êtes né, de l'endroit où vous avez pris forme, qu'il faut retourner pour arriver au non-être, à la limite entre l'être et le non-être. Dans le soufisme, c'est pareil, c'est comme ça. Dans le bouddhisme tantrique, c'est aussi pareil. Oui. Donc, implique que... Non, ça a été, pour tout religieux, le texte n'est pas préparé, le texte est révélé, le texte est transmis, c'est une directive du Tout-Puissant, du Très-Haut.
Oui, oui.
Il n'y a pas de formule.
Oui, oui, d'accord.
Donc c'est le tout haut qui vous oblige à agir de telle sorte, qui vous amène, qui vous conduit à agir de telle sorte. Alors on retrouve également cette notion magique dans l'efficacité accordée au yantra. Le yantra est un diagramme, bien sûr, qui, abritant une divinité, est aussi un instrument de méditation. Il consacré par des rites spéciaux comportant surtout, alors les rites, c'est qu'ils comportent des triangles, des formes, des triangles, des cercles et des demi-cercles qui évoquent les pétales de lotus. Le lotus a été considéré comme la source de vie. Il est le symbole de la spiritualité. Depuis l'Égypte antique d'ailleurs, on retrouve dans les temples égyptiens le lotus qui est l'épanouissement, qui est la naissance, qui est l'émergence de la nature, de l'homme qui est au fait de la nature, et pour les bouddhistes aussi. Alors le lotus est très important, la forme du lotus est l'accomplissement parfait, la notion de la perfection.
D'ailleurs, en yoga, c'est la posture du lotus qui est la première.
La première, qui est la plus importante, qui est fondamentale, parce qu'elle est l'émergence, elle est la naissance.
Et à partir de celle-là, il y en a d'autres.
Exactement. Il est toujours dit que la naissance est la perfection d'abord. Et c'est dans l'évolution de la vie que l'homme se corrompt et se pourrit. Mais d'ailleurs, ça a été repris par Rousseau. Et c'est aussi le lotus, donc je vous dis l'Égypte, c'est aussi pour les rosicruciens, la forme de la rosace, qui est aussi l'accomplissement total. Alors, vous avez le Sri Yantra, qui est considéré comme le plus efficace et qui est formé d'une série concentrique de triangles, de cercles et de carrés, qui exprime une représentation du cosmos à partir du point central qui est le bindu. Le bindu qui signifie le Brahman. Le bindu, c'est le point infini essentiel d'où sont parties toutes les choses. C'est le premier atome, l'atome central, le noyau. Alors, on retrouve enfin aussi la magie dans l'efficacité des mandalas. Les mandalas, le mot mandala veut dire cercle en sanskrit. Cercle, donc, la notion de perfection, de totalitarité. Je m'excuse, je pense. Alors, c'est un diagramme mystique et qui est aussi cosmique et magique. Le cercle, donc le cosmos, dans ses ronds, servant de support à la méditation. Le mandala est fait de carrés et de cercles, bien sûr, concentriques aussi. Et on y trouve, en partant de l'extérieur, les quatre points cardinaux qui sont protecteurs et qui expriment les quatre faces du monde et qui sont gardés par quatre... divinités cosmiques, qui sont cosmiques et aussi tutélaires, à laquelle on appartient, donc à laquelle les hommes, les êtres, les espèces appartiennent, qui illustrent les symboles cosmiques universels des Orients, les Orients, donc dans la Kabbale notamment, c'est repris, et des cercles. S'il est dessiné et peint sur le sol, son parcours lent et méditatif est une épreuve mystique. Enfin, le mandala, et une épreuve mystique qui doit être méritée. Cette épreuve n'est pas une obligation, il faut la mériter, il faut être disposé, il faut être pur, il faut être saint, surtout d'esprit, pour pouvoir mériter cette épreuve, pouvoir l'accomplir. Alors, et elle conduit d'ailleurs vers l'illumination, c'est pour ça qu'elle doit être méritoire. Elle est représentée par un tissu, ou bien sur du papier. Sa contemplation sert de base à la méditation et elle permet à l'esprit d'atteindre à l'universel.
Oui, mais alors, quand l'esprit atteint à l'universel, c'est la méditation transcendantale à son stade le plus élevé?
Il n'y a pas de stade élevé, justement, dans la méditation. Il faut toujours reculer les frontières, parce que si vous déterminez une limite, il n'y a plus de perfection. Chaque limite est perceptible. Il n'y a rien de perceptible. Notamment quand on parle de réincarnation, il y a toujours le cycle des réincarnations qui est à chaque fois renouvelé. Et la dernière réincarnation est l'état de perfection totale. À ce moment-là, quand il y a une ultime réincarnation, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Alors, il y a l'anéantissement du monde, justement,
alors c'est l'homme
du monde shivaïste. C'est de plus en plus haut. C'est exponentiel, c'est une fonction qui va vers l'infini. Et l'infini n'a pas de limite. Et c'est là la chose essentielle.
Alors, l'homme devient lui-même Dieu à ce moment-là.
Il ne devient jamais Dieu, il ne peut pas devenir Dieu. L'homme ne devient jamais Dieu. Il prend l'image de Dieu qui est infinie. On n'atteint jamais Dieu.
Mais alors, c'est là la notion de paradis ?
Il n'y a pas de notion de paradis précise, justement. Dans ça. Il n'y a pas de notion de paradis. Le paradis et l'enfer n'est pas important, justement, pour les tantristes. Il n'y a pas de notion. L'enfer, vous le vivez. Vous le vivez quotidiennement. Le paradis n'est pas une notion essentielle comme dans les autres religions monothéistes, les religions fondamentales. Le paradis n'existe pas. Ce qui est fondamental, ce qui est très important, c'est que vous puissiez vous transcender, pour que vous puissiez vous purifier et atteindre cet état sublime qui vous amène à Dieu, qui n'est pas l'état de Dieu, parce que vous ne pourrez jamais atteindre l'état de Dieu.
Oui, alors cela amène l'homme vers l'infini, c'est ça?
Vers l'infini. Oui. L'homme est vers l'infini parce qu'il y a une évolution qui n'a pas de limite.
Mais il lui faut plusieurs réincarnations.
Il y aura toujours des réincarnations. Le cycle des réincarnations est infini. Au centre de la figure du mandala, donc, est placé soit d'un côté le Bouddha primordial, le Bouddha essentiel, le Bouddha de la naissance et le Bouddha de la fin, donc, soit Indra. Je vous avais dit, Indra, c'était l'ancêtre de Vishnu, donc c'est ce dieu à la fois guerrier et pacifique de l'hindouisme. Alors, soit un livre aussi exprimant la suprême sagesse. Alors, la suprême sagesse, c'est-à-dire la suprême connaissance. Le mandala est l'image symbolique du monde. Il est parfois en une forme de dôme, aussi il est représenté comme un dôme, une bosse donc ronde, avec une pointe centrale. Et cette base représente le monde inférieur. Donc, et au sommet, il y a la divinité suprême, vers laquelle convergent toutes les aspirations humaines, les aspirations de ce monde terrestre, ce monde matériel. Il est aussi, le mandala, il est l'expression du cosmos. Il symbolise le cosmos en lui-même, étant donné sa forme, donc arrondie, sa forme cosmique. Il est surtout le cheminement de l'esprit. Il est cette évolution qui part de cette base terrestre, de cette base nulle pratiquement, vers cette base céleste, vers cette hauteur céleste plutôt. Alors, et il est donc ce cheminement de l'esprit qui accompagne de la base au sommet ces représentations. Et si vous voulez, c'est le processus même de la recherche de la vérité. Alors, pour en revenir au tantrisme, les grandes caractéristiques du tantrisme sont, d'abord, avec tout ce que je veux dire, sont principalement la symbolique, l'occultisme, l'iconolâtrie, parce que des représentations, donc d'icônes, des images, d'iconolâtrie, et le yoga tantrique, puisque vous en avez parlé, le yoga tantrique.
Mais la vérité, vous dites, en recherche, donc on ne la trouvera jamais, on avancera toujours, la vérité, on ne la trouvera jamais.
C'est ça, on va toujours vers la vérité. Oui. Il faut toujours aller vers la vérité, parce que celui qui a découvert la vérité n'a plus besoin de vivre. Et on ne la découvre pas, la vérité.
Oui, oui.
Puisqu'il y a des tas de facteurs qui déterminent cette vérité. Oui. Et vous ne pouvez pas tous les assimiler. Alors, il y a aussi un tantrisme shivaïque qui donne une grande importance à l'énergie féminine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons parlé de la notion de dualité qu'il y avait en Shiva, un côté masculin et un côté féminin.
Oui,
ce côté féminin étant, bien sûr, soit sa parade, soit Kali. Vous savez, la déesse noire, Kali. Alors, il y a donc, dans le tantrisme shivaïte, il y a cette prédominance féminine de l'homme, et notamment de Shiva, qui est Kali, qui est l'énergie procréatrice, l'énergie féconde, cette énergie active, qui est d'une portée cosmique. Il y a l'union sexuelle est transcendée dans le tantrisme dit, à ce moment-là, de la main droite, qui est, si vous voulez, l'école de secret, de recherche d'ascèse. Et tandis que celui de la main gauche se confond avec érotisme et sorcellerie. Vous avez d'ailleurs des tas de temples en Inde, des temples shivaïtes, donc, où il y a des représentations qui peuvent être des représentations sexuelles, qui peuvent être considérées comme amorales, donc par des gens qui n'ont pas cette formation shivaïte, qui n'ont pas cette notion de religiosité. Et en fait, c'est l'accomplissement, c'est une notion d'accomplissement. Vous avez, alors, le tantrisme bouddhique, lui, élaboré sur les confins de l'Himalaya, il est élaboré, est appelé le troisième véhicule. Il fait une large part à la magie et au culte féminin des Taras, qui sont des divinités ambivalentes, tantôt terribles et cruelles. Quand elles sont terribles et cruelles, elles sont représentées en jaune ou en bleu, et tantôt douces et compatissantes, et elles sont soit de couleur verte ou blanche. Alors, la forme principale de ce bouddhisme tantrique est le lamaïsme. Le lamaïsme, donc, des lamas. Et le lamaïsme a pris naissance au Tibet, pratiquement dans la plaine, dans les hauts plateaux du Tibet. Le Tibet est un pays fait de hauts plateaux. Et c'est dans ces endroits, dans cet endroit, qu'est né le lamaïsme qui a été introduit. Alors, ce bouddhisme fut d'abord introduit par deux princesses donc au Tibet, l'une népalaise du Népal et l'autre chinoise, qui épousèrent le roi Song Tsang Gampo, qui est devenu depuis légendaire, étant donné que c'est lui qui a converti son peuple au bouddhisme. D'abord. Et alors, bon, un bouddhisme régional, parce que avant l'arrivée de ces deux princesses qui introduisent le bouddhisme, enfin qui ont converti leur époux qui lui est allé plus loin, les gens avaient un culte plus ou moins chamanique, qui était chamanique et c'était une religion primitive dite la religion du Bompo, qui est une religion beaucoup plus un peu qui se rapproche pratiquement des religions de peuplades primitives que nous avons peut-être que nous avons vu auparavant, dont nous avons évoqué l'existence, et que nous verrons plus tard dans d'autres émissions. Alors, si vous voulez, Le bouddhisme tibétain, à ce moment-là, c'est un bouddhisme régional qui a pris, qui a fait donc certains syncrétismes, qui a pris ce qu'il y avait, certaines croyances, pour pouvoir introduire donc cette croyance bouddhique. Il fallait amener les gens à considérer que Bouddha était identique à tel ou tel dieu, que Bouddha pouvait apporter. La sagesse de Bouddha se confondait avec l'esprit chamanique de telle ou telle manifestation. Et alors, c'est pour ça qu'il y a eu une forme syncrétique, donc, au départ. Et ce bouddhisme tibétain s'éloigna petit à petit, donc, s'éloigna donc du bouddhisme Mahayana, qui est initial, avec bien sûr l'introduction de nouveaux dieux, des dieux qui sont petit à petit, qui ont pris plus d'importance, des dieux chamaniques, des dieux primitifs. Et jusqu'en 750, il y a eu une petite pratiquement correction, il y a eu une révolution, on a un peu remis de l'ordre dans tout ça, et un prêtre qui s'appelle Padma Shambhava, je pense essayer de bien prononcer, hein, qui fut connu comme le grand fondateur de la religion tibétaine. C'est pratiquement lui qui a institutionnalisé cette religion, c'est lui qui a déterminé pratiquement tous les fondements, qui a mis de l'ordre, qui a nettoyé, qui a enlevé toutes les influences chamaniques, tous ces dieux païens, pour dire, bon, ben, voilà ce que va être le bouddhisme tibétain, et appelé le véhicule tantrique. Il fonda des monastères et la secte des bonnets rouges, dit la secte des anciens. Alors, cette secte, donc, allait pratiquement organiser la religion dans le pays. Au XVIe siècle, enfin, nous sommes en train de faire un peu d'histoire, au XVIe siècle, après des désordres politiques et religieux, un moine nommé Tsongkhapa réorganisa la hiérarchie et la discipline monastique. Il fonda la secte des Gelugpa, qui veut dire les vertueux, dite celle des bonnets jaunes. Donc là, qui sont des bonnets pointus avec de longs pans qui se rabattent sur les oreilles. Il a aussi pourvu son pays d'une forme très spéciale de gouvernement qui est restée donc avec, bien sûr, un chef à la fois spirituel et temporel qu'on a appelé le Dalai Lama, donc au Tibet, qui est une réincarnation du Bouddha. C'est pour ça qu'il pouvait gouverner, étant donné que il était la réincarnation du Bouddha, il avait la sagesse du Bouddha. L'église tantrique du Bhoutan, elle, a un peu simplifié tout ça, et c'est un dérivé de l'église tibétaine. Elle est dite de la secte des anciens, celle des bonnets rouges, parce qu'elle a changé. Elle s'est dit, bon, ben, ça ne va pas être les bonnets jaunes, ça va être les bonnets rouges. Elle a repris la forme ancienne donc de ce bouddhisme tibétain. Elle avait sa propre réincarnation qui s'appelle le Dharma Raja. Le Dharma, vous vous souvenez, quand on a parlé de l'hindouisme, ça veut dire la loi. Le mot dharma, c'est la loi, et dans le bouddhisme, c'est surtout la morale, la sagesse religieuse. Alors, ce Dharma Raja a dirigé le pays durant plusieurs siècles, après la prise du pouvoir par le grand-père de l'actuel roi, depuis qu'il y a eu ce coup d'État. Le Dharma Raja s'est enfui au Tibet, où il est mort, hein, où il mourut. Il mourut en exil. On dit que sa réincarnation fut assassinée et qu'une nouvelle réincarnation se serait manifestée et elle serait gardée par des fidèles dans une petite ville au nord de New Delhi, en Inde. C'est ce qu'on dit. Le Bhoutan est différent du Tibet. Il est différent du Tibet parce que le Bhoutan est une région montagneuse avec juste quelques plaines enchâssées dans ces montagnes, alors que le Tibet, ce sont des hauts plateaux. Ce sont des hauts plateaux à très haute altitude. Alors, il est, si vous voulez, à la limite, la manifestation du grandiose et la manifestation de Dieu est perceptible différemment à partir du moment où votre environnement est différent. Vous n'avez plus du tout à la fois les mêmes menaces et vous n'avez pas les mêmes bienfaits. Alors, et c'est en fonction de ça qu'on arrive à situer Dieu, à le conserver. Alors, cette différence géographique, ces différences géographiques ont déterminé l'élaboration de traditions et de coutumes différentes. Alors, le Tibet a influencé religieusement tous ses voisins, lesquels ont pu se distinguer par une personnalité propre et originale à chacun d'eux. Le Népal n'est pas le Bhoutan, n'est pas le Sikkim, n'est pas le Ladakh, et qui sont justement de la même influence religieuse. Et ils ne sont pas le Tibet. Alors, chacun a gardé sa propre personnalité. La richesse du folklore religieux au Bhoutan est étonnante. Tout l'art s'est développé autour de l'église avec une profusion de détails et de symboles qu'on ne peut que rester interloqué devant tout ça, et surtout devant la complexité des légendes et des images qui s'y rattachent. La base du tantrisme est simple, mais elle s'agrémente d'un panthéon fabuleux, constitué d'abord par l'histoire du Bouddha, qui est centrale, et puis du cycle de ses réincarnations. Mais alors, il faut y ajouter les grandes réincarnations de saints locaux dans chaque région. Bon, chaque saint, donc le Dalai Lama ou bien le Dharma Raja chez les Bhoutanais, et ainsi de suite. Et tous ces cycles de réincarnation sont aussi adorés. Alors ça donne une complexité énorme, avec bien sûr les légendes qui se rattachent à chacune de ces réincarnations. Alors, ça complique un peu les choses pour nous, étrangers, quand on arrive et on voit ça. Bon, c'est très difficile à comprendre. Il faut vivre dans ce bain spirituel pour pouvoir en saisir toute la portée. Il n'y a qu'à admirer, alors en silence et sans trop essayer de comprendre, parce qu'il faut subir, tout simplement subir Dieu. Cette solution de facilité est d'ailleurs adoptée par les Bhoutanais et leur clergé. Bon, on simplifie quand on peut. Toutes les cérémonies qui composent la vie d'un lama sont tellement complexes que, si vous voulez, elles sont très difficiles. C'est pour ça que, bon, on arrive à élaguer dans beaucoup de choses. Alors, la durée moyenne d'une manifestation religieuse, par exemple, vous prenez, est souvent de plusieurs jours. Il y a, pour n'importe quelle manifestation. Alors vous avez d'abord la préparation de cette manifestation. Vous avez la sortie des accessoires qui se fait avec cérémonie. Aussi, il y a un cérémonial pour sortir les accessoires de la manifestation. Alors, il y a le rituel qui s'étend souvent au minimum sur 8 heures. Et puis, il y a le rangement, le rangement des choses sacrées, des choses qui sont préparées à cette manifestation. Les moines, eux, vous l'avez compris depuis que l'on parle de cette émission, les moines jouissent d'un prestige élevé. Rares sont les Bhoutanais qui, à la veille d'une décision ou qui, après avoir fait un rêve, ne consultent pas le lama. Le lama qui est aussi un astrologue, qui a l'art de la divination, qui explique soit le rêve ou qui dit « Attention, n'allez pas là, vous risquez d'avoir ceci ou cela ». D'ailleurs, c'est un peu connu au niveau de beaucoup de peuples. Et si vous voulez, il faut se dire aussi que le cadre grandiose et impressionnant des montagnes environnantes, tout le milieu géographique impose l'humilité, impose, si vous voulez, la considération de tout ce qui est religieux et vous fait rechercher les intercesseurs auprès de Dieu qui vous donne l'explication de tout. Toutes ces montagnes, d'ailleurs, et chaque sommet est identifié à une divinité. Et le plus haut, celui qui a 8000 mètres pratiquement, qui est le mont Koulakangri, est la divinité la plus puissante. Et c'est à peu près chamanique. C'est ce qui ramène donc à considérer que la nature a une force cosmique très importante. Enfin, les éléments de la nature sont puissants, aussi puissants que ce qui est divin. Alors, tout est prétexte à Dieu, tout. Aux légendes, aux traditions. Au folklore, surtout au folklore qui décrit la religion, qui décrit les manifestations de Dieu, du Bouddha, de tout ce qui est puissant dans l'esprit des gens, dans le mysticisme primaire. Alors, le mysticisme primaire de cette population devient très profond chez les moines qui partent souvent à la recherche de vérités, des vérités qu'ils ne trouvent jamais. Ces derniers, bon, bien sûr, se retirent dans des monastères accrochés dans des hauteurs vertigineuses, à la limite des neiges éternelles. Et il s'adonne à l'ascétisme pour parvenir à la contemplation et au nirvana, qui est, si vous voulez, un peu cette notion du point ultime entre l'être et le non-être, atteindre la vérité. la vérité, la grâce éternelle. Mais c'est pas possible, ça n'est pas de ce monde. On dit même que le Bouddha agissait ainsi. Il mangeait chaque jour un grain de riz, seulement, un grain de riz. Il a dû s'arrêter, bien sûr, ce régime qui est un peu difficile. Il a dû s'arrêter de pratiquer ce régime pour pouvoir transmettre, communiquer le message aux hommes, le message de la religion, le message de l'existence, le message de la vérité. Alors, il a dû pratiquement cesser, donc ce jeune, il a cessé le mysticisme. C'est un peu ce qu'a essayé de faire le roi du Bhoutan pour justifier, d'ailleurs il dit, cessons ce mysticisme contemplatif et apportons un nouveau message. Alors il a essayé d'apporter un message, le message du modernisme. Il est jugé beaucoup trop progressiste au goût de son peuple, qui craint de perdre ses traditions et sa profonde originalité pour ne devenir qu'un peuple parmi tant d'autres, confondu dans les valeurs de la consommation et dans la négation de la spiritualité.
Eh bien, de quoi réfléchir. Merci, Kadri Aga. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, amis éditeurs, et à la semaine prochaine.